Il est 6h40, bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
Pour votre journal des idées, Jacques, vous vous penchez sur la Syrie, car malgré l'absence de progrès tangibles fin novembre à Genève sur le comité constitutionnel en Syrie, les lignes semblent tout de même commencer à bouger dans le pays.
Eh oui, ne serait-ce que par l'épuisement des belligérants qui cherchent une sortie du conflit. C'est ce que pense Gilles Kepel dans l'entretien accordé à Alaa Kodmani et Luc Mathieu pour Libération, à l'occasion de la parution de son dernier livre « Sortir du chaos ». Chez Gallimard. Paradoxalement et très cyniquement, l'implantation de Daesh dans le pays pouvait avoir un intérêt pour les uns et les autres, estime le politologue. Bachar al-Assad parce que son régime n'apparaissait plus comme le pire, les Iraniens parce que les méchants ce n'étaient pas eux, les pays du Golfe parce que ça tenait les Iraniens en respect, et des dirigeants en Turquie parce qu'ils tiraient bénéfice de la contrebande de pétrole. Mais aujourd'hui, les avantages qu'il y a à pousser des groupes maximalistes dans le conflit sont plus faible que la perspective d'influer sur le règlement. Dès lors, on peut tenter d'esquisser le scénario d'une sortie du conflit. Si une occupation russo-iranienne se met en place, ça nourrira le ressentiment des populations sunnites qui n'étaient pas djihadistes. Gilles Kepel évoque le cas de Mossoul en Irak, où la haine anti-chiite a poussé même les partisans de Saddam Hussein à devenir djihadistes. Et Poutine, qui a vu l'armée rouge s'enliser en Afghanistan, n'a pas envie de se retrouver dans la même situation en Syrie, même si son intervention a permis à la Russie de se remettre en selle comme grande puissance, ce qu'elle n'est plus en réalité avec un PNB comparable à celui de l'Espagne. Pareil pour les Iraniens qui n'ont plus les moyens de leur politique. Les Russes œuvrent donc à une solution politique avec ou sans Bachar. Ils sont aujourd'hui prêts à forcer un compromis. La police militaire russe présente à Alep est notamment composée de sunnites tchétchènes et ingouches, explique Gilles Kepel. C'est pourquoi les rebelles leur font confiance. L'importance de cet axe russo-sunnite n'amènerait pas pour autant les Russes à lâcher le monde alaouite, ni les Kurdes, ne serait-ce que pour garder un levier sur les Turcs, lesquels mènent une politique extrêmement cohérente en étendant leur présence dans le nord-ouest syrien au détriment des zones kurdes. Pour le monde diplomatique, Mireille Cour et Chris Denon sont allés enquêter dans le Kurdistan syrien où s'est constituée la Fédération démocratique de la Syrie du Nord, que les Kurdes appellent aussi Rojava. La région est en discussion avec le pouvoir syrien pour organiser son autonomie, mais elle reste dans l'angle mort du régime comme une solution provisoire pour se délester d'un front supplémentaire. Pourtant, la démocratie communaliste, basée sur des conseils communaux et des assemblées régionales élues, avec un quota de femmes et de représentants des communautés non kurdes, arabes et chrétiennes syriaques, constitue à ce jour la seule alternative existante à la dictature en place dans le pays. Nous sommes la véritable opposition, souligne Ilham Ahmed, qui préside l'exécutif du Conseil démocratique syrien, la branche politique des forces démocratiques syriennes, qui contrôle tout le nord-est de la Syrie. Cette Kurde, originaire d'Afrine, ajoute que la plupart des groupes armés sur le terrain sont des extrémistes et ils ont le soutien de la Turquie. Et elle défend le projet d'autonomie de cette alliance kurdo-arabe en appelant de ses voeux une nouvelle constitution dans laquelle la décentralisation sera inscrite. On connaît la contribution essentielle des combattantes et combattants kurdes à la défaite de l'organisation État islamique et le prix du sang payé pour défendre des populations menacées comme les yézidis. Mathias Somme est allé enquêter sur la détresse des rescapés yézidis au camp de Dohuk en Irak pour le site de l'hebdomadaire Le Point. La peur, l'effroi hantent encore ces femmes capturées alors que leurs hommes, pères, maris, frères ont été massacrés par les djihadistes de l'État islamique. Leur très ancienne religion liée au culte à mystère de Mitra est considérée comme diabolique par les fondamentalistes islamistes qui ne reconnaissent aucun passé antérieur à la révélation. Pourtant, une forme de syncrétisme a permis aux yézidis de maintenir leur croyance au sein d'un islam ouvert aux variantes pendant des siècles. Aujourd'hui, à l'hôpital du camp de Dohuk, sur lequel flotte un drapeau kurde en signe de protection, on tente de se prémunir contre les tentatives de suicide. La vie est est longue dans le malheur, dit un proverbe. Coincées dans les camps du Kurdistan, ces femmes ne peuvent imaginer retourner à Sinjar, ne serait-ce que par peur que Daesh ne revienne, et parce qu'il n'y a plus rien, ni école, ni hôpitaux, ni infrastructures. Certaines d'entre elles ont décidé de se joindre à la plainte visant Lafarge, mise en examen en France pour financement d'une entreprise terroriste et complicité de crimes contre l'humanité dans le dossier de sa cimenterie syrienne.